Allez, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook VOA Afrique, déjà plus de 2 millions de fans. On continue et on attend également vos appels 001 202 619 31 40. Georges Léonard Sagno, Fred Nerkayemi derrière la vitre pour prendre vos appels. Avec nous ce soir, on part sur Libreville retrouver Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Amdine Sy, le traditionnel, notre ami journaliste qui n'est pas à Dakar en ce moment, qui est en France. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Et on va faire un grand coucou également à Amine Birouk hein, de Radio Mars, c'est au Maroc. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, évidemment, on va retourner sur cette finale aller de la Coupe de la Confédération qui s'est jouée samedi, bousculée par le Maghreb Olympique Béjaïa. Samedi, c'était à Blida en finale aller. Le tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi, qui a ramené un match nul, un but partout. Un bon point à l'extérieur, diront les uns. Une performance décevante pour les autres. En tout cas, hein, ce score de parité va être difficile, hein, évidemment. Le tout-puissant Mazembe qui, on le connaît, n'a pas vraiment l'habitude de jouer sur la défensive à Kamalondo dans son stade de Lubumbashi qui devra en tout cas au moins essayer de mettre un but pour se rassurer et ne pas jouer un 0-0 terrible hein, qui pourrait évidemment en cas de but des Algériens qui pourrait évidemment être fatal pour les Congolais. Avant de vous entendre les uns et les autres, on va écouter Hubert Velude hein, qui est l'entraîneur des Corbeaux. On écoute Hubert Velude.
C'est une très bonne opération, mais comment dire, on a quand même souffert en deuxième mi-temps. Des erreurs défensives un peu inhabituelles. Il faut aussi souligner le grand match du Mob, qui a joué crânement sa chance, qui a joué jusqu'au bout. Non, c'était un match difficile, hein, comme on s'y attendait. Le fait d'avoir marqué ici, c'est très important. En première mi-temps, on a bien géré le match, je pense. On était bien en bloc, on était bien disposé. Un petit peu moins bien en deuxième mi-temps, mais globalement, je suis très satisfait du résultat, bien sûr. Et je suis quand même prudent pour le match retour. Ce ne sera pas le même match que nous, on voudra faire la différence au match retour, mais c'est vrai que c'est une bonne option. C'est une bonne option.
Voilà Hubert Velude, évidemment l'entraîneur du tout-puissant Mazembe. On rappelle que les deux équipes se sont affrontées hein, lors de la phase de poule. Une petite victoire 1-0 à domicile pour Lubumbashi qui avait fait un match nul 0-0 en Algérie. Jules Valentin Ngoué, évidemment, on ne présente plus le tout-puissant hein, Mazembe hein, qui a évidemment une grosse expérience de ses finales continentales avec le petit nouveau hein, Béjaïa qui arrive pour une première fois dans une phase de compétition internationale et qui se qualifie pour la finale. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce match retour? Qu'est-ce que vous retenez de cette première confrontation lors de la finale? Jules, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bien sûr. Oui, pour cette confrontation en finale, on peut dire que on s'attend à un match équilibré, comme à l'aller, un match équilibré et particulièrement indécis. Et on a vu une équipe de Béjaïa qui a, en première mi-temps, dominé un peu dans la possession de balles, puisque le tout-puissant Mazembe s'est contenté surtout d'assurer son bloc et de ne rien laisser passer. Et pendant cette mi-temps, justement, le tout-puissant Mazembe a essayé d'exploiter ses chances jusqu'au bout. Et c'est ainsi que c'est lui qui ouvre le score avant de se retrouver à égalité avec son adversaire du jour en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps mieux menée par le Mouloudia Olympique de Béjaïa qui a dominé surtout en fin de rencontre sans scorer. Donc là, on se dit que le score semble favorable au tout-puissant Mazembe qui revient avec un nul avec but. Mais en fait, tout est à refaire et tout est à faire parce que, ma foi, le Béjaïa a des atouts. Peut-être que le tout-puissant Mazembe ne pourra pas toujours contrer.
Merci beaucoup, hein, Jules Valentin Ngoué. On va se tourner évidemment vers Amine Birouk pour parler évidemment hein, de cette situation. On va prendre justement Amine par rapport à ce qui se passe par rapport à cette équipe. Vous avez raison de me corriger, Jules Valentin, c'est bien le Mouloudia et pas le Maghreb. Amine, est-ce que vous êtes avec nous? On a des difficultés pour vous entendre.
Tout à fait, je suis là.
Alors Amine, qu'est-ce que vous pensez de la performance évidemment de l'équipe algérienne?
en ballotage défavorable après avoir dominé de manière stérile la première mi-temps de cette finale aller et avoir pris un but un peu contre le cours du jeu sur un exploit individuel d'Assalé qui avait provoqué un pénalty. Et puis, en ayant été malmené en deuxième mi-temps par une équipe beaucoup plus expérimentée du TP Mazembe. Un bon coup de pied arrêté qui permet à l'équipe de Béjaïa de revenir dans la partie. Ils auraient même pu marquer un deuxième but en toute fin de rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe de Béjaïa nous a habitués à ces rencontres poussives à domicile. Et ils s'expriment beaucoup mieux en déplacement. La preuve, ils avaient éliminé le plus de Rabat en demi-finale après avoir concédé un 0-0 à l'aller. Il va falloir voir dans quelle mesure ils pourront rééditer cet exploit. Sachant que le TP Mazembe a l'habitude de ces grandes finales, le TP a l'habitude aussi de gérer des matchs nuls.
Alors, pardon de vous interrompre, Amine, la ligne est très difficile. On va vous reprendre dans quelques instants. La ligne est très difficile avec Kaza. On va prendre au téléphone un premier auditeur qui nous appelle de Parakou au Bénin. On retrouve Abdelaziz Harouna. Bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Alors, vous avez évidemment suivi ce match nul. Hein. Vous pronostiquez une petite victoire de Mazembe au retour. Pourquoi ?
Tout puissant Mazembe, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans cette compétition. Et également, c'est une équipe qui joue devant son public. Donc, le fait de jouer devant son public, ça a un grand avantage pour tout puissant Mazembe.
Oui, vous avez aussi le sentiment hein, de l'expérience congolaise. Hein, ce serait un septième titre en compétition africaine, alors que c'est une première finale hein, pour Béjaïa. Vous avez le sentiment que l'expérience congolaise est aussi un plus dans cette confrontation ?
Absolument, absolument.
Très bien, merci beaucoup de nous avoir appelé Harouna hein, depuis Parakou, c'est tôt. Bénin, on va continuer évidemment à parler de cette demi-finale aller. On rappelle que le match retour, ce sera dimanche, évidemment. Jules Valentin Ngoué, on le rappelait, hein, peut-être un septième titre hein, pour les tout-puissants Mazembe. Hein.
Oui, un tout-puissant Mazembe qui sait se surpasser à domicile lorsqu'il s'agit des grands rendez-vous. Ça, c'est certain qu'il y a un public qui le pousse. Mais attention, le public peut aussi être une pression supplémentaire pour l'équipe. Parce que pour certaines rencontres, et même la plupart des rencontres, Mazembe gagne à la limite à domicile et n'expose pas un jeu très flamboyant. Or, on a vu que le Mouloudia à l'aller a monté de bonnes dispositions, notamment au niveau de la maîtrise collective du groupe. Notamment en première mi-temps, en fin de rencontre, et sa capacité donc de produire du jeu offensif avec des individualités qui sont distinguées de temps en temps par des petits gris-gris et quand même qui ont su provoquer la défense de Mazembe. Donc, à un but partout, je me dis que c'est pratiquement des 50-50 et peut-être que ça risque de se jouer au mental. Et à ce niveau-là, les Algériens, on le sait, savent péter les plombs. Et puis, de l'autre côté, le tout-puissant, Mazembe est une équipe qui a de l'expérience.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va retrouver à Kaza Amine Birouk de Radio Mars. Amine, vous êtes avec nous ?
Oui, je vous reçois.
Alors, vous le disiez, Amine, hein, pour le Mouloudia Olympique de Béjaïa, contre-performance à domicile. Hein.
Contre-performance relative, dans la mesure où l'équipe algérienne nous avait habitués à ces matchs aller poussifs à domicile. Ils ont peut-être les atouts pour mieux s'exprimer en déplacement. Pour preuve, leur qualification face au FUS de Rabat en demi-finale, le retour un peu contre toute attente. Maintenant, ils s'attaquent à un gros morceau, le TP Mazembe, qui a fait preuve de belles qualités morales parce qu'ils ont été dominés en première mi-temps. Ils ont mieux fait tourner le ballon en deuxième mi-temps et surtout, ils ont exploité un petit temps faible les Algériens en fin de première période pour pouvoir prendre l'avantage avant d'être rejoints sur le fil. Ce qui est sûr, c'est que le TP Mazembe part avec un a priori favorable. Ils savent gérer ces situations où ils font un partout en déplacement. La preuve, en demi-finale contre l'Étoile Sportive du Sahel, où ils ont tenu un 0-0 qui leur a convenu. Il va falloir voir maintenant, est-ce que les joueurs du TP Mazembe sont conscients qu'ils ont cet atout et est-ce qu'ils ne vont pas s'enflammer devant un public exigeant et donc se découvrir face à une équipe algérienne qui excelle dans l'art du contre.
Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que cette finale hein, va rappeler aussi un contraste par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions et la victoire des Mamelodi Sundowns. Un deuxième titre seulement pour les Sud-Africains hein, depuis 1995 et les Pirates d'Orlando. Peut-être la fraîcheur, hein, l'inexpérience justement de Béjaïa, ou alors peut-être un résultat classique, on va dire, sur les 10 dernières années dans ces compétitions continentales, puisque évidemment le tout puissant Mazembe garde quand même léger avantage sur les pronostics. On va prendre un Hamdine Sine, hein, Hamdine Sine qui est avec nous. Hamdine, vous, quel est votre sentiment hein, sur cette double confrontation et le match retour qui attend évidemment les Algériens lors de cette finale retour?
Nicolas, je pense que c'est un match piège pour le tout-puissant Mazembe. C'est vrai que le tout-puissant Mazembe est avantagé parce qu'ils ont marqué à l'extérieur, mais attention, ça peut quand même se retourner contre eux parce qu'ils jouent contre une équipe algérienne qui m'a agréablement surpris parce que c'était le petit poussé. Ils ont créé l'exploit, c'est leur première finale, c'est un néophyte, donc ils n'auront pas trop de pression face à une grosse cylindre comme le tout-puissant Mazembe. Donc comme ils n'ont rien à perdre, ça peut quand même les pousser à créer l'exploit. Pourquoi pas faire comme les Sud-Africains qui ont quand même qui sont entrés dans l'histoire en remportant le premier titre. Je pense que le coup est jouable pour ces Algériens. C'est vrai qu'ils sont un peu désavantagés. C'est vrai que le tout puissant Mazembe est très expérimenté. Ils savent gérer quand même ces genres de matchs. Mais attention pour ces 90 minutes. Un but marqué à 5 minutes de la fin peut vraiment changer le cours des choses. Donc, je pense que c'est un match pièce pour le tout-puissant Mazembe.
Merci Amédine. On va prendre un autre auditeur, hein, Richard Zongo, qui nous appelle du Burkina Faso. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir.
Alors Richard, évidemment, hein, vous parlez du tout-puissant Mazembe. Sur Facebook, vous nous dites que le club a fait l'essentiel, mais rien n'est gagné d'avance. Hein.
Oui, effectivement, le tout-puissant Mazembe, en allant faire le match nul, un but par tout temps de Moja au Abida. Parce que le tout-puissant Mazembe a fait l'essentiel en allant faire ce match nul d'un but partout. Mais il faut dire que le tout-puissant doit faire très attention et ce monsieur du Moja, puisque au match aller, le Maroc n'a plus rien à perdre. Donc, le Moja peut. Vraiment le destin en main et doit vraiment aller vraiment chercher à faire un match de début partout pour aller s'imposer et à Lubumbashi. Donc le tout puissant Mazembe ayant fait un but partout à l'extérieur doit vraiment faire tout de même très 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 attention à cette équipe marocaine là qui vraiment peut créer la sensation même en terre du tout puissant Mazembe.
Merci beaucoup hein, Richard d'avoir été avec nous. On va évidemment suivre hein, cette finale retour sur VOA Afrique. On rappelle hein, un but partout entre Béjaïa qui va se déplacer sur la pelouse des tout-puissants Mazembe, les Corbeaux à Lubumbashi. C'est Georges derrière la vitre, il faut attendre la fin du jingle, il a raison. On est toujours sur VOA Afrique, hein. Cette fois-ci on va parler de cyclisme, hein. Évidemment. La belle épreuve reine en Afrique de l'Ouest et peut-être un peu partout sur le continent, c'est le Tour du Faso. La quatrième étape entre Combissiri et Tiébélé, remportée ce lundi par l'Ivoirien Bamba Karamoko devant l'Érythréen Dawit Araya Haile. Au général, c'est le Français Gviatowski du club de la Défense hein, qui est le maillot jaune du leader. Avant de vous entendre les uns et les autres, on va écouter Alassane Ouangraoua. J'ai joint il y a quelques minutes le président de la Fédération Burkinabé de cyclisme.
Particulièrement, mes impressions sur le Tour de Faso est bonne. Nous avons en tout cas enregistré beaucoup de participants. Et quant à la victoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, étape, je dirais que en tout cas, ça ne me surprend pas parce qu'il faut reconnaître que depuis un certain temps, le cyclisme ivoirien, en tout cas, commence à bouger. Et la France, je dirais franchement, ça a été une surprise parce que je ne connaissais pas très bien cette équipe, mais je pense qu'à partir de ce moment, il faut compter avec elle.
Ça a dû vous satisfaire, hein, la victoire évidemment lors de la première étape de Mathias Sorgho.
Oui, effectivement, c'est un honneur pour le Burkina que le jeune Mathias Sorgho a remporté la première, en tout cas, nous a offert la première victoire. Mais je pense que ça ne serait pas la dernière parce que, vu quand même le niveau que nous avions, je sais qu'en tout cas le Burkina pourrait offrir, on pourrait avoir d'autres victoires.
Est-ce que vous regrettez les absences du Bénin et du Maroc?
Écoutez, ça me surprend et je suis surpris parce que le Maroc qui détenait le maillot, c'est vrai qu'ils sont partis au championnat du monde. Le président avec lequel nous avons d'excellents rapports, et dont à 72 heures, des tours me confirmant la présence du Maroc. Et bon, mais en tout cas, moi, je suis surpris et j'attends de le voir afin que nous parlons directement pour en tout cas mieux vous éclairer. Et quant au Bénin, bon, je ne sais pas, il n'y a pas d'excuses parce qu'ils sont vraiment à côté. Bon, je ne peux pas dire plus.
Voilà, Lassane Wangawa, le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Alors, on retourne à Casa, hein, retrouver Amin Birouk, nos confrères de Radio Mars. Amin, on en parlait, hein, l'équipe du Maroc qui n'est pas présente sur ce Tour du Faso, est-ce qu'on a un peu plus d'explications chez vous?
Voilà, la seule explication plausible, c'est que la saison a été longue pour les cyclistes marocains. Ils ont pris part il y a quelques semaines au championnat du monde et ont fini dans les 25 premiers avec Anesse et Labdia. Il y a eu la saison avec les JO, il y a eu beaucoup de compétitions. Maintenant, s'il y a eu engagement de la part de la fédération, en tout cas promesse verbale, il aurait fallu qu'elle soit tenue, quitte à envoyer une équipe de jeunes cyclistes espoirs pour pouvoir quand même être présent dans une épreuve aussi prestigieuse sur le plan continental. D'autant plus, c'est ce qui est regrettable, mais c'est oui, que c'est le Maroc qui avait remporté l'édition 2015 avec Moissy Lassaigne.
Et oui, donc c'est vrai que c'est un coup dur pour les organisateurs. Jules Valentin, on rappelle, hein, cette année, 90 coureurs qui sont alignés. Le forfait de dernière minute du Maroc et du Bénin. Une victoire ce soir des Ivoiriens. Une première victoire burkinabé dans cette épreuve. Alors vous, vous êtes gabonais, hein, la Tropicale Amissa Bongo, c'est votre spécialité. Mais on reconnaît quand même, hein, que ce Tour du Faso continue à vivre et à bien vivre, hein, notamment après le départ il y a quelques années, hein, d'Assaut, hein, d'Amaury, hein, qui était l'organisateur français, le même que celui du Tour de France. Hein.
Oui, mais c'est un grand classique, le Tour du Burkina Faso. C'est un grand classique du cyclisme africain et je crois que c'est la plus grande manifestation internationale avec le FESPACO au pays des hommes intègres. Et pour cela, dans un, disons que une nature relativement assez plate, les sprinteurs ont toujours un rôle très important à jouer et généralement les Marocains, les Ivoiriens se distinguent à côté des Burkinabés. Donc je crois que bon an, mal an, même s'il y a quelques défections dues à des calendriers surchargés, et l'essentiel est que le tour se passe et qu'il se perpétue. Donc bravo aux organisateurs du tour qui, une fois de plus, nous montrent que les grands classiques se distinguent des courses opportunes.
Oui, Amdinsi, votre sentiment, hein, sur ce Tour du Faso qui reste une des belles épreuves, hein, continentales cyclistes, hein.
C'est quand même le Tour du Faso, mais ce n'était rien par rapport à ce que j'avais l'habitude de couvrir au Sénégal, le Tour du Sénégal. Donc le Tour du Faso, c'est vraiment un tour exceptionnel où tous les pays africains qui ont quand même la chance de participer doivent y aller, quoi, parce que c'est un tour très relevé avec une très 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 bonne organisation, un tour très médiatisé où les Africains ont quand même du mal des fois à attirer leurs tellement que on invite des Européens, des équipes des autres continents qui quand même arrivent à relever ce grand niveau du Tour du Faso. Moi, je trouve ça exceptionnel, mais je regrette encore une fois l'absence des Marocains. Les Marocains que j'ai eu également à regarder, ils sont exceptionnels quand il s'agit de faire ces tours en Afrique. Mais vraiment, je regrette, comme l'a dit Amin, je pense qu'à défaut de sélectionner quand même les meilleurs cyclistes marocains, on pouvait quand même déplacer les espoirs, les espoirs, rien que pour quand même faire honneur à l'Afrique, parce que ce tour, c'est la fierté de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup, on continuera de suivre sur VOA Afrique, voafrique.com, ce Tour du Faso. On est toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. En bref, on va vous donner quelques nouvelles de la planète sport. Tout d'abord, le sélectionneur allemand Joachim Löw qui prolonge avec la Mannschaft. Joachim Löw, champion du monde en titre, a prolongé son contrat de 2 ans pour aller jusqu'en 2020 avec la sélection allemande. On se rappelle qu'en 2020, il y aura l'Euro organisé dans 13 pays différents, notamment l'Allemagne. 3 matchs de poule et un quart de finale. Amdinsi, Joachim Löw, évidemment, qui est l'un des piliers, notamment, qui a réussi à bâtir le succès de cette équipe allemande. C'est une bonne chose dans ce football moderne où finalement, généralement, on a très peu de temps. Et on se souvient que lors de l'Euro, les Allemands ont été éliminés par les Français qui leur ont barré la route de la finale. C'est une bonne chose, selon vous, que la fédération allemande mise sur la continuité depuis 2006 ?
Tout à fait. Contrairement aux pays africains où on a l'habitude quand même de changer d'entraîneur comme au stage de semis, en Europe, surtout en Allemagne, quand ils choisissent un entraîneur, c'est pour un projet à long terme. Donc on l'a laissé faire, il a réussi à gagner quand même une Coupe du Monde, c'est pas n'importe où. Donc Löw à la tête de la Mannschaft encore pour une durée, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en sport, il faut quand même avoir des projets à long terme et ne pas quand même se fixer des objectifs comme ça et renvoyer des entraîneurs. Non, il faut quand même une bonne politique et je pense qu'avec un entraîneur comme Löw, l'Allemagne peut également remporter d'autres titres. En tout cas, je pense que Joachim Löw est l'homme de la situation car on a vu cette équipe de la Mannschaft, une équipe très jeune qui est en train quand même de séduire parce que autant on disait que les Allemands c'était la rigueur. Mais maintenant, les Allemands, ils jouent comme des Brésiliens autant et comme les Espagnols en ce moment. Donc, c'est un travail bien fait par Löw. Et je pense qu'ils ont raison, les dirigeants allemands, en continuant leur bail avec Joachim Löw.
Merci. Amédine, on va parler de tennis, évidemment. Le Masters de Paris, le dernier de la saison. On n'aura pas les 4 du Big Four. Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal sont absents, mais Andy Murray est là et il affrontera au prochain tour l'Espagnol Fernando Verdasco qui s'est qualifié ce soir après l'abandon de Robin Haase. Georges-Léonard Sagnier aime trop la musique. On continue à parler de sport sur VOA Afrique. La NBA, nous sommes aux États-Unis, le championnat de basket américain. On accueille Cheikh Thierrot pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors évidemment, on parle de l'homme du jour, l'homme de la soirée. C'était bien évidemment Westbrook d'Oklahoma City qui a réussi un véritable exploit. 33 minutes, 33 points en 34 minutes. Et dans l'ensemble du match, il a fait un triple-double. 33 points, 12 rebonds et 16 passes. Historique qui a permis notamment la victoire d'Oklahoma City face aux Lakers.
Cette année, pas de Kevin Durant, pas de problème pour Westbrook. Il a marqué beaucoup, il joue très bien cette année. Il est en train de jouer comme MVP. Il joue comme ça parce que Kevin Durant n'est pas là et qu'il y a un problème avec les transitions avec le Golden State. Bon, aussi, il y a des joueurs qui jouent comme ça actuellement au NBA. Westbrook, il est en train de jouer comme un MVP. S'il continue comme ça, il a la chance d'être MVP cette saison. Et puis Anthony Davis, lui aussi, il joue comme ça. C'est ces deux-là qui dominent très bien au NBA actuellement. Et puis actuellement, il y a des équipes NBA qui...
Alors peut-être juste avant, Cheikh, vous parliez de Golden State. Golden State qui a gagné 106-100 face à Phoenix. Mais ça reste poussif pour la franchise de Stephen Curry, évidemment, et de Kevin Durant dont vous parliez.
Yeah, Kevin Durant et Stephen Curry, c'est des superstars. Toi-même, tu sais, c'est des superstars ici aux États-Unis. C'est des gens qui ont des problèmes avec des transitions actuellement. L'année passée, ils ont gagné 73 matchs sans défaite. Bon, cette année, ils ont commencé leur premier match avec une défaite. Bon, ça, c'est quelque chose qui les dérange beaucoup. Ils n'arrivent pas à faire les transitions avec l'arrivée de Kevin Durant au Golden State actuellement. Et ça va beaucoup les perturber cette année. C'est ce qu'on voit à travers l'NBA aujourd'hui.
Et il y avait deux autres équipes qui ont retenu votre attention, Philadelphie et Minnesota. Pourquoi ?
Philadelphie et Minnesota, ça, c'est des équipes qui sont les deux équipes derrière les NBA depuis des années. Mais cette année, avec l'arrivée de certains joueurs, Par exemple, au Minnesota, il y a les Andrew Wiggins, il y a un nouveau qui est venu du Kentucky. Les jeunes sont en train de prendre l'équipe, les têtes de l'équipe. Ils ont gagné plus de matchs comparément à l'avenir de cette équipe qui s'est passée dans l'année avec le Kevin Durant. Bon, il y a aussi une équipe au Philadelphie qui est en train de jouer très bien maintenant, et avec l'arrivée d'un jeune joueur africain qui s'appelle Joel Embiid. Donc lui, il a beaucoup de potentiel pour prendre Philadelphie des petits en haut.
Et alors, dernier mot sur un autre joueur, évidemment, qui nous avait enflammé. Ça, c'était pas la finale de l'année dernière, c'était la finale d'il y a deux ans. Kawhi Leonard, 27 points encore hier pour les Spurs, évidemment, contre Miami. Il peut faire oublier Tim Duncan ?
Yeah, il peut faire oublier Tim Duncan parce que lui aussi, il est dans la liste des MVP cette année. Lui, c'est un joueur, c'est pas un joueur seulement d'offense, c'est un joueur aussi de défense aussi surtout. C'est ça qui les aide, les Spurs, les San Antonio Spurs. Je pense qu'avec Kawhi Leonard, il peut se passer beaucoup de choses sans Tim Duncan. Avec lui, il va passer beaucoup de bonnes choses.
Merci beaucoup, Cheikh Tiro. Les explications NBA à retrouver tous les lundis soirs dans Sporama. On donne un dernier résultat. Houston a infligé à Dallas sa troisième défaite de la saison, 92-93, grâce notamment à un lancer franc décisif de James Harden à la dernière seconde. Au total, James Harden, c'est 28 points hier soir. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va saluer à Casablanca, Amine Birouf. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Un grand coucou également à Amdinsi. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Inch'Allah, on va saluer également Jules Valentin-Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à très bientôt.
Merci à tous d'avoir été fidèles. On le rappelle, la fréquence voaafrique.com pour nous suivre 24 heures sur 24. La page Facebook, plus de 2 millions de fans. On va remercier Georges Léonard Sagnot et Fredner Kayemit qui étaient à la mise en onde. Nicolas Pinault à la présentation. On se dit à très vite sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.